Rocky's like my brother. And when
Rocky est comme un frère pour moi. Ça peut paraître idiot, car je suis un grand garçon, mais en terminant le film, j'étais triste de le perdre. Tout ce que nous avons, ma famille et moi, nous le devons à ce petit boxeur. Et jamais je ne serai aussi attaché émotionnellement à un personnage. C'est quelque chose d'assez rare. La plupart des acteurs, des écrivains, des peintres passent à autre chose à un moment donné. Moi, je vis avec Rocky depuis 30 ans. Et je me sens très proche du personnage. Il y a aussi une part d'autobiographie. C'est comme si je parlais à travers Rocky.
C'était la voix de Sylvester Stallone. Aya Sissoko, vous avez été un peu traumatisée par Rocky ?
Oui, enfin, c'est un peu ce que je disais avant l'enregistrement. C'est, oui, il y a certaines scènes, qui sont que je trouve assez caricaturales, même si j'ai adoré les Rocky, même si les, enfin, la bande son, enfin, des différents films sont rentrés, enfin, sont devenus, enfin, des classiques. Mais en l'occurrence, cette scène où Rocky, pour travailler ses appuis, doit courir derrière une poule. Je me suis dit, mais ouais, ok, c'est tout un concept.
On est entré en studio et vous nous avez montré cette petite vidéo sur le téléphone.
Exactement, où Mickey balance une poule dans une arrière-cour d'un immeuble new-yorkais où Rocky se doit de l'attraper pour travailler ses appuis.
Et en réalité, quand on est boxeuse, c'est pas vraiment, ça fait pas partie de l'entraînement.
En tout cas, à mon époque, non, on ne court pas derrière les poules.
Et est-ce qu'on met un fil entre les jambes pour travailler les appuis ? Parce que dans le premier, oui. Il fait ça.
Alors,
un fil qui doit rester tendu, qui ne doit jamais casser.
Effectivement, donc ça c'est un travail que j'ai déjà fait en salle, de manière à garder enfin la même distance entre la jambe avant et
mais
jambe arrière.
Mais la poule, non.
Non, la poule, non.
Clotilde, vous vous souvenez quand vous avez vu Rocky pour la première fois ?
J'ai vu Rocky 3 pour la première fois. J'ai pas vu les premiers et j'ai redécouvert Rocky le premier en salle à la Cinémathèque de Toulouse récemment lorsqu'on a créé le spectacle là-bas au théâtre du Sorano à Toulouse et découvrir le premier Rocky en salle était une très grande expérience. Une salle en plus pleine de jeunes étudiants et de voilà, une salle pleine à craquer et c'est un très grand film, très grand film.
Rebecca Chaillon, vous avez vu les Rocky ?
Non. J'ai pas vu les Rocky, ni les James Bond, ni les Star Wars, ni les Harry Potter. Voilà. J'aime pas les séries.
Et est-ce qu'il y a une idée ou un rôle qui, comme là, Stallone le raconte, vous lâche jamais ou vous ne vous a jamais lâché? Qui vous colle au corps?
J'ai eu très très peur des rôles et de l'incarnation, donc je m'en suis vraiment détachée. Je parle plutôt du principe que les choses me traversent et que ne restent que moi.
Il y a des choses qui vous ont.
Mais là, en entendant Stallone qui dit je parlais de moi à travers Rocky, j'ai le sentiment de parler de moi à travers Liz, le personnage de Stallone, le roman d'Emmanuel Bernheim, voilà, qu'on est en train de jouer en ce moment, qu'on a adapté au théâtre, qu'on joue actuellement sur cadre.
Aya Sissoko, Clotilde M, vous posez une petite question pratique sur l'entraînement de la boxe. Quel conseil vous nous donneriez si on commençait la boxe anglaise? Qu'est-ce qu'il faut comme au départ? Qu'est-ce qu'il faut en tête? Qu'est-ce qu'il faut savoir?
L'assiduité, enfin avoir envie d'y aller. Parce que voilà, ce sont des sports qui sont difficiles, ce sont des sports qui demandent énormément de répétition, hein, répéter ses gammes un peu comme un danseur. Et faire un bon boxeur, ben, ça prend du temps.
Il est 20h sur France Culture et voir peut changer votre vie, voir vraiment. Un film, une pièce de théâtre, voir une œuvre d'art, mais pas comme avant, voir pour la première fois. Clotilde M joue Stallone d'après une nouvelle d'Emmanuel Bernheim qui raconte la sidération de Liz devant Rocky III un soir de janvier 1983. Alors que les voix de ceux qui l'entourent, son père ou son petit ami, glissent, Sylvester Stallone fera partie de sa vie et la chanson de Rocky III s'accroche à son corps, à son cœur, elle retrouve le désir. Clotilde M a choisi ce texte parce qu'il lui donnait envie de monter sur scène aussi fort que ceux qui ont l'envie de monter sur le ring. Un mot a guidé Aya Sissoko dans la vie, Danbe. C'est du malinké, c'est vite dit, deux syllabes et ça veut dire dignité. C'est le mot que sa mère lui a offert, ordonné. C'est le mot qui, sur le ring, l'a guidé. Il faut affronter l'autre en entier. Aya Sissoko a fait de la boxe sa colonne vertébrale, avant de trouver aussi et l'écriture et les mots. Rebecca Chaillon, elle, fait de la scène une zone de combat. Elle offre au regard des corps de femmes qui peuvent être des corps sportifs. Dans son spectacle, des performeuses et joueuses de football renversent les codes, font le point entre les coups donnés et les coups reçus. Sur scène, c'est un affrontement entre la vie d'avant et celle de demain. C'est entrer dans l'action, il y a une gravité, la possible défaite, mais l'immense excitation avec de l'endurance de peut-être tout changer. Nous sommes donc avec la comédienne Clotilde M qui joue Stallone, mise en scène par Fabien Gorgeard. C'est jusqu'au 26 octobre au 104 à Paris avec le Festival d'automne, puis en tournée à partir du 6 novembre au TNB à Rennes, avant Tulle et Toulon. Nous sommes avec Aya Sissoko qui, elle, a connu et le ring et l'écriture et la scène, championne du monde de boxe française en 1999 et 2003 et championne du monde de boxe anglaise en 2006. Nous sommes avec Rebecca Chaillon, metteuse en scène, auteure, performeuse. Sa pièce « Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute » met en scène une équipe de joueuses de football. C'est tous en scène sur France Culture. Ça commence par la voix de l'auteur Emmanuel Bernheim.
L'envie d'écrire est née assez brutalement. Bon, d'abord, j'avais une vie qui semblait toute tracée et puis qui un jour a changé. D'ailleurs, grâce à un film encore. Là, c'est pas ça qui m'a directement fait écrire, mais c'est ce film-là qui m'a fait changer de vie. Alors, je vais le... Alors ça, chaque fois je le revois, j'ai la même, j'ai envie vraiment de me lever. Oui, non, mais de me lever, de l'encourager. Bon, alors c'est le combat final de Rocky III. C'est à peu près donc la chose qui a changé le cours de mon existence, c'est-à-dire que moi j'étais installée dans ma petite vie comme ça d'archiviste au Cahier du cinéma, et puis un jour je vais voir ce film. Et je me rends compte, voilà, là, il a mis KO le méchant Clubber Lang. Il a récupéré son titre. Et là, il m'a absolument semblé que je comprenais ce qui était en train de m'arriver, c'est-à-dire que j'étais en train de m'endormir, de rater ma vie, de laisser passer toute chance de faire quoi que ce soit. Et je sais pas, je crois qu'il y a dans sa façon...
C'est ce match
C'est ce film. Oui. Bon, il l'a écrit lui-même, il l'a mis en scène lui-même, évidemment, il le joue lui-même, et je pense qu'il y a quelque chose d'une vérité, d'une sincérité qui passe dans ce film, qui, moi, m'a... Oui, enfin, qui a réellement changé le cours de mon existence. Alors, bon, pas le lendemain, parce que ça m'a donné une fièvre d'enfer. Je sais pas, 10 jours après avoir vu ce film, j'ai donné ma démission au Cahier. Et puis j'ai décidé de changer de vie, et puis c'est presque comme grâce à ça que je me suis mise à écrire. Donc c'est vraiment, enfin, je pense que si un film a joué un rôle dans ma vie, c'est celui-là, c'est Rocky III. We'll be right back.
On n'a pas résisté à mettre la musique.
Autant passer Survivor sur les ondes en ce moment.
Je dis, Dem, vous cherchiez un texte qui vous donne profondément envie de monter sur scène.
Oui, j'avais envie d'un exercice aussi, d'une sorte de profession de foi, hein, quelque chose d'une sorte d'acte de transparence. Et avec ce texte-là, j'ai trouvé mon point d'ancrage et de pouvoir ne pas être dans une performance ou un exercice de virtuosité, mais dans quelque chose de l'ordre de la transparence. Pouvoir me raconter, mais sans être dans l'autofiction non plus, sans être... je sentais des... J'ai eu aussi une révélation en lisant ce texte. Il fait sur certains et certaines, il fait l'effet d'un peu Eye of the Tiger, ce texte. J'ai rencontré des jeunes femmes qui le lisent régulièrement pour se redonner du courage. Et quand je l'ai découvert, oui, il m'a donné envie de me réveiller. Ça a fait l'effet d'un éveil et j'ai eu envie de le partager, cette expérience de lecture-là, de la partager sur scène.
Est-ce que ça correspondait à quoi comme moment dans votre vie de comédienne? Parce que vous veniez de jouer...
Un petit moment de relâchement, un petit moment presque léthargique, un petit moment où on se laisse un petit peu aller, on est un peu... on ne sait pas trop ce qu'on désire et ce qu'on a envie de faire, et j'avais besoin de retrouver le désir, l'œil du tigre.
Donc vous veniez de jouer Le jeu de l'amour et du hasard ces dernières années, que vous avez beaucoup tourné, mise en scène par Catherine Yégel.
Oui, enfin, pourtant, ça m'empêchait pas de faire mon métier, quoi. Je faisais mon métier, mais j'avais besoin d'interroger vraiment mon désir et de prendre en main, prendre en charge quelque chose de plus personnel, de plus intime.
Et est-ce que vous, votre vie a pu changer avec la fiction, avec une œuvre,
avec l'art, évidemment, ouais. Avec la découverte de la littérature, du cinéma, évidemment. Jusqu'à mes 18 ans, j'étais en mode veille dans ma province. Je voyais pas les VHS, Rocky, tout ça, toutes les VHS. Mais ça a fait vraiment l'effet d'un éveil.
Quelle œuvre, par exemple ?
De manière générale, la littérature, surtout les femmes en littérature, les découvertes de, je sais pas, Carol Oates, Nancy Houston, enfin des. La littérature d'abord et des études de lettres, bon, que j'ai rapidement abandonné pour faire du théâtre parce que j'avais envie que les mots me traversent, quoi, et puis pouvoir j'avais envie de mettre le corps en jeu, quoi, et puis la découverte d'Emmanuel Bernheim plus tard, ça nous a fait l'effet de ça aussi avec le metteur en scène Fabien Gorgeard, qui lui en fait a découvert Tout s'est bien passé, qui est son dernier roman. On a très envie de l'adapter pour le cinéma ensemble. On a déjà fait un film ensemble. Et puis, parallèlement, on a lu, il m'a fait découvrir tous les autres. Et Stallone a été une révélation.
Et Rocky, ça faisait partie de votre culture cinématographique à vous ?
Ah oui, Rambo, plus Rambo, Rocky, les Terminator, enfin, tous ces films des années 80, regardés en VHS à la maison. Chez mes parents, oui, on s'en cache pas, c'est notre trésor de jeunesse. On était élevés avec ça. Beaucoup moins avec Romère et Desplechin, c'est venu après. Mais elle faisait naturellement, Emmanuel Bernheim, le grand écart entre ça. Et c'était pas une pause du tout. Aujourd'hui, on peut dire qu'on aime tout et c'est un peu branché d'aimer Stallone. À l'époque, elle a écrit quand même ce texte en 2003. Tout le monde a cru à une blague, un truc un peu potache. Et pas du tout. Elle avait une réelle admiration. Et on l'entend et c'est sincère. Pour les films violents, les films d'action et les films de Stallone. Et quand elle a écrit ce texte, il est très autobiographique. Sa vie a été jalonnée par les films de Stallone. Et Lise, le personnage qu'elle écrit, qu'elle met en scène dans le roman, est vraiment, c'est la colonne vertébrale toute sa vie. Elle commence avec Rocky III en 83 et jusqu'à Copland en 97. Et on suit comme ça son arc de vie. Avec tous les films, pas les meilleurs aussi pendant, parce que les films de fin des années 90, il y a quand même, Assassin, L'Expert avec Sharon Stone, c'est pas non plus des films d'anthologie. Hein. Mais voilà, ils sont, et les comédies aussi. Faut se souvenir qu'il a quand même adapté Oscar au cinéma. L'embrouillé dans le sac, c'est une adaptation d'Oscar avec Louis de Funès. Non, il a fait son Louis de Funès. Et oui.
Mais c'est vrai qu'on vous associe plus souvent au cinéma d'auteur, Clotilde Dem, de par votre filmographie, et vous racontiez récemment que finalement Romère, vous l'aviez découvert
grâce à Luc Bondy, en 2004, oui. C'est ces metteurs en scène là que j'ai rencontrés, qui m'ont amené, qui m'ont donné cette image peut-être, mais je reviens de loin.
Est-ce qu'on peut lire un petit extrait de la nouvelle d'Emmanuel Bernheim?
Lise s'assit à la terrasse d'un café, il y avait du monde, la foule du samedi soir. Elle commanda un cognac, en but une gorgée et ferma les yeux. Jamais encore elle n'avait été aussi heureuse. Elle rouvrit les yeux et sourit. De l'autre côté de l'avenue, une colonne Maurice tournait lentement, découvrant l'affiche de Rambo. Elle irait le voir. Elle vida son verre d'une seule traite. Désormais, elle irait voir tous les films de Stallone, tous. Elle n'en raterait aucun. Elle en faisait aujourd'hui le serment. Et elle n'attendrait pas qu'il passe à la télévision. Non, elle irait les voir en salle. Elle paierait sa place. Elle lui devait bien ça. Car c'était grâce à lui que sa vie allait changer. Lise se leva. Maintenant, elle avait hâte de rentrer chez elle. Dans son poing fermé, elle serra fort la clé de son studio. Oui, sa vie allait changer.
Aya Sissoko, Rebecca Chaillon, vous, votre vie a pu changer grâce à une œuvre de fiction ?
J'ai que Mary Poppins en tête, mais du coup, c'est pas hyper valorisant.
Ça marche aussi.
Ça marche, ça va. C'est ce qui me vient là, je suis désolée.
Une œuvre de fiction, là, enfin, non, moi, je sais pas. En fait, moi, je sais pas, j'ai l'impression d'être trop ancrée dans le réel. Enfin, c'est, voilà, c'est, moi, c'est la vie, c'est le quotidien, c'est les interactions avec les autres. Enfin, pourtant, la littérature occupe une place, enfin, très, très importante. Dans ma vie, parce qu'on a tendance justement à me réduire à la boxe, mais non, en fait, je lis depuis toute petite.
Et puis depuis, vous avez écrit aussi.
Et en plus, oui, voilà, j'ai écrit, enfin voilà. Mais là, comme ça, tout de suite, ouais, trop compliqué comme question.
Clotilde M, sur scène, vous n'êtes pas toute seule, c'est pas un solo, vous êtes deux avec Pascal Sangla.
Ouais, je suis accompagnée d'un immense musicien acteur qui s'appelle Pascal Sangla, qui prend en charge voilà, toute la partie musicale et tous les personnages qui gravitent autour de Lise. Pardon, parce que en plus de la boxe, il y a la médecine, donc c'est un monde d'hommes. Elle est entourée de beaucoup d'hommes et sa famille aussi. Bon, il prend aussi en charge une étudiante, de manière très très drôle.
Est-ce que vous êtes autorisée à écrire ça sort de. C'est
oui,
en
oui,
plus
ouais,
de l'écriture d'Emmanuel Bernheim, ouais. Mais il y a des petits dialogues.
Bah, il y a des improvisations pendant la pièce qui sont des digressions, qui sont des choses qu'on a amenées nous. Et on a un canevas avec plus ou moins ce qu'on doit. Voilà, mais ça reste très très libre et lui est très très fort à cet exercice-là. Donc c'est un.
Et c'est très radiophonique parce que lui, vous avez un micro, vous êtes en fait tous les deux sur un rectangle blanc qui rappelle aussi un petit peu un ring ouais. Si, pendant le spectacle. Et puis ensuite. Lui, il est avec son clavier, la musique est en direct.
Oui.
Et vous parlez dans un micro face au public. Et puis, il y a quelque chose de aussi très radiophonique dans la façon dont Lise décrit sa vie, parce que finalement, toutes les voix, en effet, de son père, de son petit ami au début, on a l'impression que ça la traverse, mais finalement, ça n'a plus d'impact. Enfin, ça fait plus. Et tout à coup, c'est la musique de Rocky qui va reprendre le rythme de son corps, de sa vie, et qui va l'emplir. Mais avant, on a l'impression que tout glissait et que plus rien n'avait vraiment de sens.
Oui, oui, et la musique agit vraiment comme un souffle. C'est pas un accompagnement musical du tout, c'est vraiment... Moi, je me sens complètement portée par le souffle de la musique, et la musique est narrative aussi. Je pourrais me taire, toute la musique raconte le texte. Enfin, voilà, on est plus que complémentaires, on est indissociables. Et c'est essentiel. Moi, j'avais aucune envie de toute façon d'être seule en scène. C'était pas du tout mon objectif. Et là, je suis très très bien accompagnée. Ouais.
Et le moment de boxe, de combat, ça se transforme en moment
oui.
de danse.
Mais on a cherché à transposer parce qu'on est au théâtre et qu'on avait aussi envie de. Et j'allais pas mettre des gants et puis faire semblant que je savais faire de la boxe. Donc c'est passé par les pieds. Je fais de la boxe avec les pieds. C'est-à-dire que on a remarqué assez vite que les baskets que je portais sur ce sol blanc, qui est un sol comme un sol de théâtre, de danse, faisaient un peu de loin le même bruit que des gants sur un sac. Et donc on s'est amusé, c'est plutôt une séance de claquettes que de boxe, mais voilà, c'est de toute façon la boxe après prend pas une grande part dans la vie de Lise.
Elle prend quand même des cours à un moment donné.
Elle prend des cours, voilà, mais après c'est un monde encore très très masculin et elle en a à un moment elle en a marre de ces types, elle le dit, marre de la boxe. Il se moque un peu d'elle, elle prend un coup, après on lui dit que avec les coups, voilà, il peut voilà, mais comme le dit Stallone, c'est les coups qu'on encaisse qui sont importants, pas forcément ceux qu'on donne. Donc elle encaisse et puis après elle rebondit.
Parce qu'il n'y a pas de vestiaire féminin, donc ils sont obligés
non,
d'attendre.
Ils attendent derrière la porte.
Et puis, personne ne veut se battre avec elle au début.
Voilà. Ouais, c'est pas à un moment donné évident hein, pour les femmes, Aya.
Non, mais je suis parfaitement d'accord. Non, moi, en plus, quand je suis arrivée à la boxe, j'avais 8 ans et demi. Ouais. C'était en 87-88. Ah ouais. Donc à l'époque, la boxe n'était absolument pas à la mode. Et donc oui, c'est poser la question du vestiaire, c'est poser la question de l'acceptation d'une femme. Alors ça s'est posé encore plus quand j'ai commencé la boxe anglaise, où j'étais vraiment la seule femme, la seule compétitrice, où au commencement, l'entraîneur ne voulait même pas de moi. Et donc oui, au fait, c'est serrer les dents, c'est se dire ben je suis là pour rester et que vous le vouliez ou non, c'est comme ça et c'est pas négociable. Et donc l'entraîneur, enfin quelques années après, voilà, m'a fait cette confidence. C'est toi qui m'as convaincue d'ouvrir le club aux femmes, mais ça a été compliqué.
Rebecca Chaillon, on va en parler, mais c'est une question aussi que vous posez dans votre spectacle. Est-ce que les corps de femmes, ça peut être des corps sportifs? Pourquoi c'est pas perçu forcément comme ça? Pourquoi ils sont tout de suite érotisés? En tout cas, c'est quelque chose qui traverse...
Oui, je reconnais ce que tu racontes, Aya. Le parcours, même si je l'ai formulé tard, en intégrant l'équipe de foot à 30 ans, me dire, mais à quel moment on a été empêché, à quel moment j'ai intériorisé que je n'avais pas ma place sur ce terrain et bon, là, j'ai eu la chance d'intégrer une équipe féminine, militante, donc voilà, où j'avais directement ma place. Mais
elles sont géniales, en plus, l'équipe.
Les dégommeuses, c'était génial. Mais en tout cas, cette question de corps... Alors si, le corps, il peut être sportif, mais dans des sports qui ne sont pas vus comme violents, agressifs, compétitifs. Enfin, il y avait quelque chose où les corps féminins pouvaient exister dans le sport, mais bon, est-ce que c'est vraiment du vrai sport? Est-ce que c'est intéressant à regarder? Bon, voilà, c'était les questions un peu qui revenaient.
Ouais. Aya Sissoko, récemment, vous êtes montée aussi sur une scène de théâtre.
Oui, on y retourne au mois de novembre, d'ailleurs.
Pour le spectacle qui s'appelle Sur la route, de Anne Voûté.
Anne Voûté, oui, de Karima Gardaoui.
Quel sentiment vous avez quand vous montez sur scène? Est-ce qu'il y a des choses en commun avec le ring?
Ah, mais il y a énormément en commun. Enfin, déjà, le travail en amont. Parce que le gros du travail se fournit, le plus gros du travail se fournit en amont. Il y a aussi, voilà, tout ce stress, toute cette anxiété avant le lever de rideau. Hein. Et puis, tout comme en boxe, en fait, on peut pas se planter, c'est du théâtre. Ou même quand il arrive effectivement qu'on accroche un mot, qu'on oublie une réplique, il ne faut surtout pas que ça se voit. Il faut continuer, il faut que la pièce aille jusqu'au bout. Donc oui, il y a énormément de similitudes. C'est aussi, apprivoiser l'espace, les déplacements, le souffle, enfin la respiration. C'est jouer avec un public, même si effectivement, il est là. Donc il faut faire avec. Enfin voilà, il y a énormément de similitudes entre la boxe et le théâtre.
Et vous parliez de la similitude avec le danseur au début de l'émission en disant que c'était aussi une répétition de gestes, il faut être très discipliné.
Oui, parce que en fait c'était très pertinent ce que vous disiez, Clotilde, en parlant justement des pieds, parce que l'une des choses les plus importantes en boxe, c'est le déplacement. Et presque avant même d'apprendre à donner les coups de poing, on apprend à se mouvoir dans l'espace. Donc le travail des pieds est primordial dans la pratique. Donc au fait, finalement, c'est un bon début.
Tant mieux. Je continue alors. Et Clotilde Dem, justement, dans le rapport au public et à l'adresse, quelle nouvelle voie ça explore? Parce que là, on a presque l'impression d'être justement... d'être face à vous, presque sur le, en tout cas d'être votre partenaire.
Oui. Par rapport à la boxe et à cette comparaison-là aussi, moi je dirais qu'il y a quelque chose où il faut baisser la garde au théâtre. Enfin, en tout cas, dans cet exercice-là, en ce moment, avec Stallone, j'ai le sentiment de plus baisser la garde que de me protéger. Et que c'est comme ça aussi que je peux me laisser traverser et raconter cette histoire-là et pouvoir peut-être toucher les gens avec. C'est plus une histoire de... Ouais, de baisser la garde que de se blinder face au public. Et oui, parce que vous êtes très, très proches. Enfin, c'est dans une petite salle où on voulait cette proximité-là, cette présence-là. Ouais, très, presque en gros plan aussi.
Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'écriture d'Emmanuel Bernheim et dans le spectacle Stallone, Clotilde M, c'est le rapport au temps. Parce que le temps, en fait, se déroule assez vite. On traverse plusieurs décennies de sa vie, mais presque l'air de rien. Et c'est marrant parce qu'on traverse aussi toute la filmographie de Stallone en même temps. Et ça, c'est très beau parce que c'est très léger. On a jamais l'impression de rater des choses. Et en même temps, tout avance très vite jusqu'à une fin qui est d'ailleurs très triste et assez étonnante parce qu'on a l'impression que à partir du moment où cette femme, Lise, reprend sa vie en main, finalement, elle la perd.
Oui, la fin arrive comme un coup près, mais voilà, rend d'autant plus vital et nécessaire ce temps-là qui lui est donné et qui nous est donné à tous. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui nous est donné parce que la fin est au bout. Et qu'est-ce qu'on voilà, comment on réinvestit sa vie, les choses, notre désir, nos envies. La vie est à vivre ici et maintenant et tout de suite. Et c'est ça que raconte aussi le récit. C'est un texte sur le bonheur et sur la nécessité d'aller vers son bonheur. Et puis aussi de le c'est pas de le payer parce que je pense pas qu'il y ait quelque chose de moral ou de, mais elle fait le serment donc d'aller voir tous ses films parce qu'elle lui doit quelque chose et il y a ce sentiment de dette, de devoir son bonheur et donc d'avoir, de le traverser, de le vivre et à la fois d'être intranquille avec puisqu'il peut, voilà, s'arrêter tout d'un instant à l'autre.
Puisqu'on parle du ring et de la scène, j'ai envoyé quelques questions à Eddy Salem, jeune comédien de 23 ans, qui s'est enregistré depuis Marseille. Le chorégraphe Michael Philippot a créé pour lui un solo, ça s'appelle Juste Eddy. C'est un portrait dansé qui retrace sa vie, ses années de boxe quand il était ado et sa découverte du théâtre dans le nord de Marseille. Juste Eddy, ce sera du 4 au 8 décembre à la MC 93 à Bobigny.
Bonjour, Eddy Salem, qui travaille au théâtre Joseph, scène nationale de Marseille. Donc voilà, je travaille aux relations avec les publics, référent du champ social et associatif. Et je m'occupe aussi du réseau migrant sur tout Marseille. Voilà. La sensation que j'ai quand je monte sur un ring, c'est tout d'abord, je ressens une grande excitation, une grande liberté. Je me sens super bien, en fait. Et là, la première sensation que j'ai, la première chose que je me dis dans ma tête, c'est qu'il faut toujours aller au-delà de ses limites. Monter sur un ring, c'est différent de monter sur une scène pour moi. Parce que, en effet, quand je monte sur un ring, c'est plutôt une relation individuelle que j'ai. C'est entre moi et mon adversaire, souvent, que monter sur le plateau, sur un plateau de théâtre, par exemple, tu as une relation beaucoup plus large avec le public, donc tu as une adresse qui change, tu as un regard qui change. Je pense que le théâtre et la boxe peuvent avoir plein de points en commun selon le regard des autres, en fait, mais par exemple, pour moi, quand tu es dans une salle de voix, quand tu boxes dans un ring, en compétition ou face à tes collègues, par exemple, tu te mets à un endroit où tu te mets en exposition. Tu mets en exposition ta technique, ta force, ta rapidité. Et au théâtre ou sur un plateau, enfin, dans n'importe quelle autre pièce, y a aussi cet endroit d'exposition qui est très fort. Où tu as une façon de dire un texte, tu as une façon de l'interpréter, une façon de t'en imprégner. Pour moi, c'est un endroit très exutoire aussi, la boxe et le théâtre. C'est un endroit où voilà, tu peux relâcher ta colère, tu peux relâcher une certaine colère, une certaine rage, un certain désir aussi. Enfin, dans les deux, il y a aussi ce point en commun qui est très fort, c'est que c'est un endroit aussi où même si c'est plus intime, on va dire, la boxe, quoique le théâtre, ça peut être très intime aussi. Mais voilà, où il y a plus... tu as vraiment ce truc où, où voilà, tu partages quelque chose et les deux ils peuvent permettre ça. Et pour moi, c'est vraiment les points communs primordiaux. Mon film de boxe préféré, je pense que ça va être les Rocky, hein. Je pense Rocky 3, Rocky 4. Ouais, c'est dur entre les deux, mais ouais, moi je me rappelle très bien que Rocky, quand j'étais petit, ça m'a vraiment donné envie de boxer. Quand je l'ai regardé, j'avais 10 ans ou 12 ans, que j'étais encore en train de faire du karaté à ce moment-là. J'ai vu les Rocky, je me suis dit, ah putain, la boxe, c'est quelque chose, hein, ça donne vraiment envie. Je dirais que, ouais, Rocky 4, je dirais Rocky 4 parce que, voilà, quand même, il est vraiment très très beau, même si c'est un peu abusé à la fin où il se prend 375 patates dans la tête et il est encore debout, mais voilà, c'est, je dirais que c'est Rocky 4. Et aussi la lutte que je mène aujourd'hui au théâtre, qui vient aussi beaucoup de la boxe, c'est vraiment, voilà, de changer toutes les images négatives qu'on peut avoir sur des jeunes de quartier, de Marseille, ou de banlieue parisienne, ou de banlieue en général, en fait. C'est de changer toutes ces images, parce que au bout d'un moment, j'en ai marre qu'on nous dise à nous les jeunes, vous êtes bloqués devant vos téléphones, vous êtes bloqués, vous avez pas accès à un tel truc ou à une telle chose, alors que finalement, bien au contraire, nous aussi, on est capable de faire un tas de trucs que les gens ne comprennent pas, en fait. Et moi, c'est vraiment ça ma lutte, c'est que qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, on ne nous considère pas comme incultes ou on manque d'expérience ou la seule chose qui nous intéresse, c'est de faire la fête et de draguer ou quoi, j'en sais rien. Non, au contraire, c'est que nous aussi, on a envie de partager des choses, on a envie de raconter des choses, on a envie de prendre cette place qu'on ne nous a pas donnée, on a envie d'avancer dans la vie. Et donc nous, ça va être vraiment ça notre, moi c'est vraiment ça ma lutte, c'est prendre des places qu'on nous dit qu'on ne peut pas prendre, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille au théâtre, que je fais du théâtre, que je danse, que de la danse contemporaine, que je fais, je me mets à des endroits où on nous voit pas forcément, où on nous dit que c'est pas accessible, alors que si, bien sûr que c'est accessible. Et je pense que tant qu'il y aura des gens pour rêver, eh ben on pourra toujours donner un sens au mot liberté. Ah oui, j'ai oublié une question. Mon boxeur préféré, c'est bien évidemment Mohamed Ali, qui est mort le 3 juin. Moi, je suis né le 2 juin, donc déjà rien que ça, je pense qu'il y a un message. Et en plus, Mohamed Ali vole comme un papillon puis comme une abeille, c'est le boxeur qui m'a toujours fait rêver et à qui j'aurais toujours voulu ressembler quand je boxais. Voilà.
Aya Sissoko, on entendait Eddie Salem qui parlait de l'exposition et de la façon dont on s'exposait et dans la boxe et au théâtre. Mais vous, quand vous avez commencé la boxe, c'était plutôt un refuge, un abri?
Oui, moi, ça a été... Déjà, j'ai rencontré la rencontre avec la boxe, ça a été un hasard. Enfin, ça, faut le préciser. Enfin, j'arrive dans une école primaire, je rentre en CE2. Il s'avère que le professeur de sport propose la discipline, donc je commence comme ça. Donc il y a absolument aucun enjeu. Enfin, et puis j'ai presque envie de dire, je commence la boxe vraiment pour m'opposer à ma mère. C'est-à-dire que quand le professeur lui fait l'article, oui, donc elle peut faire du tir à l'arc, du volley, etc. Elle lui répond tout sauf la boxe. Et là, finalement, je pense que c'est l'une des premières fois où je vais véritablement m'affirmer, où je vais répondre, je veux faire de la boxe.
Parce que vous étiez une enfant très indisciplinée.
C'est pas que j'étais indisciplinée, c'est juste que j'étais une enfant avec déjà un très fort caractère. Mmh.
Qui voulait savoir, qui voulait...
Qui voulait savoir, qui était curieuse, qui n'avait pas peur de quitter le groupe pour vivre ses propres aventures, etc. Donc j'étais déjà, j'étais déjà un enfant très très libre. Faire de la boxe, c'était oui aussi affirmer justement cette liberté, c'est-à-dire, vous voulez de pas moi, j'en ai strictement rien à faire. De toute façon, je pratique un sport parce qu'il me fait du bien, parce qu'il me nourrit, parce qu'il me permet de me sentir forte, parce qu'il me, parce que physiquement, après une séance, quand je quitte la salle, voilà, la tête est vide, le corps est apaisé, reposé, hein, et que j'ai besoin de ça.
Et est-ce qu'à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, depuis, vous avez eu plusieurs titres et puis vous avez dû arrêter à un moment donné suite à une blessure. Il y a deux très beaux livres qu'on peut lire. Il y en a un qui s'appelle Dan B, écrit avec Marie Desplechin, oui, qui est comme une autobiographie. Et puis ensuite, Nba, qui est plus sur votre mère. Donc là, vous avez vraiment trouvé les mots d'une façon très forte pour raconter. Est-ce que les mots, ils étaient déjà présents? Est-ce qu'ils vous accompagnaient déjà à cette époque-là de la boxe?
J'ai envie de dire non. Non, parce que l'urgence, je pense que, enfin, l'urgence me concernant, c'était vraiment libérer le corps. C'est-à-dire, enfin, voilà, qui s'exprime. Enfin, j'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas beaucoup, enfin, où les choses, enfin, les émotions n'étaient pas verbalisées. Et donc, voilà, la priorité, en tout cas, c'est que le corps se libère. Et y arriver le moment où, on m'a dit, le sport, c'est fini pour toi. Et il a fallu trouver un autre outil pour empêcher d'avoir mal. Donc ça a été les mots. Ça a été compliqué au départ. C'est beaucoup plus facile maintenant. J'ai presque envie de dire que oui, voilà, j'ai une maîtrise des mots maintenant. Donc ça va. Donc c'est très très bien.
Et le fait de voir, parce que Dan B, ce premier livre, ça a été adapté aussi sur scène. Le fait de voir représenter ou des envies de gens de mettre vos mots sur scène, qu'est-ce que ça vous a fait?
Alors au début, je vous avoue que j'ai été très très surprise de l'intérêt à la fois pour le livre et pour et donc l'adaptation qui a suivi la parution. Parce que, de là où je viens, entre guillemets, des vies compliquées, des trajectoires cabossées, etc., il y en a énormément. Il y en a énormément, et donc c'est la raison pour laquelle je me disais, mais pourquoi plus moi que d'autres? Et la boxe, c'est aussi ça. La boxe, c'est ça qui est cruel aussi dans la boxe, c'est-à-dire que vous montez sur un ring, il y a un vainqueur et un perdant. Il n'y a pas de nuance. Et donc je pense que c'est aussi l'illustration parfaite de la vie. Et à chaque fois que vous montez sur le ring, c'est un recommencement.
Et la scène, est-ce que ça vous a donné envie, là, vous allez remonter sur scène pour ce spectacle Sur la route, qui parle des violences, policières aux États-Unis. Oui. Est-ce que cette première expérience, ça vous donne envie d'investir cet espace-là de la scène?
Alors, bon, les violences policières aux États-Unis, mais elles existent aussi en France, et le contexte nous le dit quasi quotidiennement en ce moment. Oui, de toute façon, c'est un milieu aussi que j'ai envie d'investir, parce que je pense que...
Parce que là, ça réunit le corps et les mots.
Exactement. C'est-à-dire que tout outil qui permet finalement, de libérer, l'individu, est bon à prendre. First, they had plans to do masculinizing surgery on me, because I've been raised since I've been raised as a boy that I should have phalloplasty. I quickly learned that meant I'd spend my entire teenage years in the hospital. They were showing me these pictures of people who looked like they had, I don't know, Polish sausages sewn between their legs. I was injected with testosterone for 5 months, and I didn't react very well to that. And so they quickly reversed their decision and decided to do feminizing puberty, a Mac and Doe vaginoplasty, and clitoractomy.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture avec Aurélie Charron. Elle est en studio avec Clotilde M, Aya Sissoko et Rebecca Chaillon. It was like, okay, I'm free then. It didn't work out that way. I still had to go, keep going back for examinations.
Rebecca Chaillon, votre pièce Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute, c'est aussi l'histoire d'une émancipation, ou en tout cas l'envie de modifier le regard qu'on a sur certains corps, sur le corps féminin. Et est-ce que ça a commencé quand justement vous êtes mis au football avec ce groupe qui s'appelle les Dégommeuses?
Alors ça a commencé avant, je pense, dès mon premier solo, l'estomac dans la peau, où je pensais juste voilà rentrer dans la performance et faire un spectacle auto-fictionnel avec mon corps et parler de mon désir et de mon rapport à la nourriture, et où je recevais des retours de c'est merveilleux ce que tu fais. On voit rarement des corps gros, des corps noirs, des corps où le genre est brouillé. Et j'étais là, mais moi c'est pas ça que je voulais raconter. Pourquoi tu l'associes directement à ça? Et j'étais vraiment pas en refus, mais en disant pourquoi j'ai pas cette liberté là de moi de faire un spectacle et qu'on n'y voit pas forcément mon corps. Enfin c'était assez ambigu pour moi parce que je montrais mon corps et à la fois je voulais pas qu'on y projette des choses. Et puis à force de le cogiter, je me suis dit bon bah ok, de toute façon je peux pas le séparer de moi. Ça parle de notre société. Oui, en effet, il y a pas ces corps là sur les plateaux. Je vais le prendre en charge. Et du coup j'ai cherché un peu les espaces où je pouvais où ça pouvait se questionner. Donc dans les endroits de désir amoureux, ça voilà, on peut en parler dans le rapport à la nourriture. Et puis il y a eu cette brèche dans le théâtre où on m'a accueilli pour parler de nourriture, voilà, et j'ai senti que, enfin, le festival d'après dans ce lieu, c'était un truc autour du foot, et je me suis dit, ok, non mais ok, tu, il y a une place possible, je vais aller chercher, j'ai rien à dire sur le foot, mais je, c'est bien une raison pourquoi j'ai rien à dire sur le foot, et voilà, et c'est né comme ça. J'y suis allée au Dégommeuses, j'ai été super bien accueillie.
Et les Dégommeuses, c'est une équipe de football, c'est aussi une association militante.
Oui, voilà, c'est une association qui est basée à Porte de Montreuil et qui lutte contre la LGBT-phobie et le sexisme dans le sport en général, qui fait un travail inclusif, qui accueille du coup des personnes lesbiennes, bi, trans, des personnes réfugiées qu'elle va intégrer par le sport, des personnes qui ont été exclues de leur pays pour des raisons liées à leur sexualité souvent. Qui est pas fermé aux hétéros, je crois, mais bon, enfin check personne, mais en gros voilà, il y avait tout un travail politique autour du football, et ça m'intéresse, et d'un seul coup, ou même quand je suis rentrée dans la boxe par l'autodéfense féministe, d'un seul coup c'était des endroits qui étaient possibles pour moi parce qu'il y avait un endroit de réflexion dans lequel j'étais.
Et qu'est-ce que commencer le football avec les Dégommeuses, qu'est-ce que ça justement ça déclenche comme réflexion sur votre corps, le corps sportif, le fait de justement n'avoir jamais été à cet endroit-là?
Alors ça déclenche alors mon corps, moi je l'ai découvert, bon j'avais forcément fait des choses au plateau et danser ou pratiquer du clown, de l'acrobatie, des choses qui m'avaient fait rencontrer, mais là d'un seul coup on n'y a pas d'histoire enfin il n'y a pas d'histoire, c'est une autre histoire, d'autres codes que je maîtrise pas, c'est toujours du jeu, mais c'est un jeu dont je connais pas bien les règles, toujours pas d'ailleurs mais je crois que ce que j'ai découvert au niveau des corps, c'est vraiment ce truc de communauté. Et qui était aussi un moment où on discutait beaucoup de communautarisme et dans un sens péjoratif. Et là, on était rassemblés, on avait choisi de se rassembler, pas que pour faire du foot, mais aussi pour militer, lier les deux, questionner du coup tous ces corps différents, du coup pour des questions raciales, de sexualité, de genre. Et on l'avait choisi ensemble. Et ça me parlait d'un seul coup de faire corps. Voilà. C'est un peu bidon à dire, mais il y avait quelque chose là-dedans que j'ai découvert très fort. On est 40. Enfin, il y a 90 inscrites. Moi, j'y suis plus, hein, mais parce que j'ai trop mal aux genoux. Mais il y avait quelque chose d'assez fort, quoi. À être dans le vestiaire ensemble, à courir sur le terrain.
Et sur scène, vous êtes une équipe.
Ouais.
Et c'est justement la rencontre de performeuses qui ont l'habitude de mettre en jeu leur corps et de réfléchir à ça sur scène, et des joueuses de football. Qu'est-ce qu'elles avaient en commun? Qu'est-ce qu'elles ont en commun?
Je crois que quand on me demande d'expliquer la performance, le plus simple pour moi, c'est de passer par le sport, l'endroit de dépassement en public. Tout le monde sait à peu près ce qui va se passer, mais on regarde la chose se faire dans sa durée réelle et avec un effort réel et qui est lié de manière très très forte à qui le fait. On n'a pas les mêmes corps et tout, donc pour moi la performance, c'est vraiment la performance artistique et sportive à cet endroit-là, elles sont très proches. Tout le monde vient voir comment tu vas te dépasser et comment tu vas accomplir un défi. Donc j'avais envie de faire se rencontrer ces choses-là, et l'idée d'avoir des joueuses de foot ou des personnes qui pratiquaient via les Dégommeuses ou via d'autres biais, c'était ou même d'inviter des comédiennes qui voulaient un peu se mouiller, quoi. C'était l'endroit de devenir experte de son corps dans un endroit de défi. Voilà.
Parce que justement, les corps sont très en jeu. Puis il y a aussi pas mal de discussions. Au début, ça attaque tous les clichés justement qu'on a sur les filles qui font du foot. Le foot qu'on peut faire jusqu'à 14 ans. Et puis après, en étant une fille normale. Et puis après, on bascule dans le lesbianisme. et aussi tout ce qui a accompagné les représentations. Enfin, à un moment, vous parlez de Surya Bonaly,
ouais.
Qui est une des seules...
C'est le grand moment. Oui, parce que du coup, en fait, c'était trop drôle. Je suis rentrée dans le spectacle en pensant vraiment... genre et sport, point. Et puis au fur et à mesure des choses que j'ai acquises de manière militante avec mes proches ou en faisant les camps d'été des coloniaux, voilà, des espaces de non-mixité choisis pour réfléchir aux questions de racisme et tout, les choses sont venues se croiser. J'ai compris le mot intersectionnel, c'est-à-dire d'étudier comme ça les discriminations de manière un peu plus spécifique, des fois quand elles se rencontrent entre elles et que ça donne des choses. Et je me suis dit, mais dans le football, on a vraiment... les problèmes de classe qui viennent se poser, voilà, de qui va pouvoir devenir, va pouvoir s'émanciper à travers le foot, d'un seul coup, toutes les classes sont concernées, voire même les classes sociales les plus pauvres vont pouvoir devenir d'un seul coup très riches ou très populaires. Les questions de genre, les questions de sexualité, il y a aucun footballeur ou footballeuse qui a fait son coming out, donc on est vraiment sur une sexualité qui serait hétéro point, ou en tout cas on veut pas savoir. Bon, il y avait toutes ces questions là qui se croisaient et moi je me disais, oh là là, et moi le sport, le genre et les questions raciales, puisque bon, je suis noire, ça venait d'un seul coup. Je voyais toutes ces athlètes que mon père me disait, voilà, il faut courir, il faut courir, il faut, voilà, si tu veux réussir, il faut courir. Et cette réplique-là, et je cite comme ça toutes les athlètes. Et puis moi, mon rêve,
c'est puisque t'es une fille noire, il faut que tu cours.
Ouais, voilà, il faut courir plus vite.
Tu peux réussir.
Voilà, c'est la seule manière de fuir. Et moi, donc j'ai deux choses comme ça de la culture populaire qui me reviennent, c'est le rapport à Star Rocket, où d'un seul coup, on fait rêver que des noirs peuvent faire un sport aussi bourgeois, aussi cher, et puis plutôt blanc. Enfin, bon, tout le film tourne autour de ça. Et puis ma rencontre avec Surya Bonaly, qui est d'un seul coup un modèle et qui pareil se réalise dans un sport où on voit peu de personnes noires. Et à l'époque, vraiment, en plus, elle subit le racisme, elle finit par disparaître pour des questions de racisme et tout. Et mon père me dit, non, t'es trop grosse, tu pourras pas faire de patinage artistique. Bon, voilà.
Et est-ce que Rebecca Chaillon, vous faites sur scène tout ce que vous n'aviez pas le droit de faire avant?
Oh, c'est clair. Si mon père me voyait, et je crois que maintenant il a Facebook et donc c'est dur, mais... Non, c'est oui, bien sûr, la nudité, montrer son corps, en être fier, manger sur scène de manière excessive, ou en tout cas le poser là et dire regardez-moi, ouais, ok, je suis grosse, et même sur scène, je vais faire une endurance de grossir devant vous et de être en mauvaise santé. Alors qu'on parle de sport et que le sport c'est quelque chose de patriotique.
Parce que quand ça commence, vous êtes sur les gradins avec une pizza.
Ouais, pendant très longtemps, je fais 45 minutes de pizza, clope, bière, non-stop.
Non mais l'alimentation des sportifs de toute façon est catastrophique. Hein. C'est vraiment le mythe.
C'est un gros mythe et ce mythe en tout cas fait qu'on se tape les mêmes réflexions tout le temps. Maintenant je fais du volleyball.
Et depuis la création, il y a eu la Coupe du Monde de football féminine. Et on va écouter juste un mot de la co-capitaine. Américaine, Megan Rapinoe.
This group is so resilient, is so tough, has such a sense of humor, is just so badass. Like, there's nothing that can phase this group. We're chilling, we got tea sipping, we got celebrations. We have pink hair and purple hair. We have tattoos and dreadlocks. We got white girls and black girls and everything in between. Straight girls and gay girls. Hey!
Elle dit, cette équipe est si résiliente, si brave, elle a tellement le sens de l'humour, ce sont des durs à cuire. Dans l'équipe, on a des filles qui ont des cheveux roses, d'autres des cheveux violets, des tatoués, des filles avec des dreadlocks, des blanches, des noires, tout ce qu'il y a entre les deux, des hétéros, des lesbiennes. Rien ne pourra me rendre plus fière que d'être co-capitaine de cette équipe. Il n'y a pas d'autre endroit où je voudrais être, même pas dans la course présidentielle.
Surtout pas, je crois.
Surtout pas. Ça, ça a été un moment...
J'ai les larmes aux yeux d'entendre ça, parce que même si les États-Unis nous ont platement tués, j'étais à la fois en train de hurler « Non, Mégane, non ! Arrête de gagner !» Et puis à la fois, j'étais hyper fière, parce que...
Parce que sur scène, c'est justement un endroit pour retrouver la parole. Il y a aussi... Les 20 dernières minutes du spectacle sont assez drôles parce qu'il y a l'équipe autour de vous et vous partez dans une sorte de monologue, ouais. Enfin un peu fou, un peu dingue sur justement tout ce qu'il faudrait changer, sur tout ce qui ne va pas dans ce rapport. Et donc tout à coup, c'est la parole qui est à un moment qui est repris.
Je voulais qu'on performe la parole. Je trouve pas ça évident de performer la parole. Les filles n'ont pas de texte à ce moment-là. Et je voulais non plus pas écrire leur vie à leur place. Donc c'était un drôle d'endroit. Je me suis dit bon, ok, je vous donne un protocole et maintenant on y va. Donc il y a cette fausse conférence de presse où tout le monde un peu s'exprime sur tous ces sujets de société autour du foot et où finalement moi je suis assez à l'extérieur et où je récupère la parole et je dis non, en fait je vous la confisque. Je vais être aussi la personne qui est seule face au groupe et qui va faire sa dictature et j'énonce là où est tous les paradoxes qu'on peut rencontrer en tant que militante. Et en tant que militant, c'est bien, on fait des spectacles, on dénonce des choses, et puis en même temps, on est dans une institution qu'on pourrait critiquer. Pourquoi on fait pas nos spectacles à l'extérieur, en underground? Bah, mais du coup, ils seront pas vus. Bah, et donc, c'était toutes ces choses-là qu'on voulait poser là, à travers même le football. Parce que du coup, ouais, il y a un grand moment de médiatisation autour des femmes dans le sport, là, avec la Coupe du Monde. Et puis, bah, d'un seul coup, on tourne plus, par exemple. On nous invite plus, parce que, bah, c'était la Coupe du Monde, c'était cool. C'était dans le sujet. Puis, une fois que c'est fini, est-ce qu'on en parle encore? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer par rapport à ça? Je sais pas. Bon, voilà, il y avait une grande envie de prendre des risques, de montrer des prises de risques et dans ce sujet-là.
Cette semaine, le Grand Prix de littérature dramatique a été remis à Wajdi Mouawad pour sa pièce « Tous des oiseaux » et c'est Claudine Galéa qui a reçu le Grand Prix de littérature dramatique jeunesse pour sa pièce « Noircis » publiée aux éditions Espace 34. Ça raconte là aussi la rébellion d'une jeune fille. Hiver, à 10 ans, elle refuse tout ce qui est moche, tout ce qui lui déplaît dans le monde. Alors elle se promène avec des photocopies de tableaux de maître pour avoir de la beauté à portée de main, à regarder. Bonsoir Claudine Galéa.
Bonsoir, merci.
Alors si vous êtes d'accord, je voulais commencer, j'ai donné le début de la pièce à Clotilde M et je lui ai demandé de lire un petit extrait du début, donc c'est Hiver qui parle.
Fallait pas me défier, fallait pas faire semblant. Moi je fais pas semblant, je m'appelle Hiver, j'ai les idées qui noircissent. Quand j'ai les idées qui noircissent, je viens ici. J'aime ici. Il y a le vent, le ciel, le rocher et moi. Quand je viens la nuit, c'est encore meilleur. Les idées qui noircissent aiment particulièrement. Rocher noir, ciel noir, vent noir, idées qui noircissent, et moi qui noircisse complètement. Du coup, on n'est pas noircissé, on est juste nous. Je suis juste moi, je suis en colère. Je m'appelle Hiver, j'ai 10 ans.
Claudine Galéa, c'est votre 6e pièce pour la jeunesse, et vous dites que vous l'avez écrite quand vous n'arriviez plus à écrire pour les adultes. Qu'est-ce qui se passait ?
En fait, régulièrement, j'écris pour la jeunesse quand j'ai besoin de me reconnecter à des émotions et je crois à des forces vitales. Et cette pièce est arrivée comme ça, avec ce personnage Hiver, avec ce prénom.
Parce que c'est une histoire entre quatre ados, ils ont 10, 11 et 14 ans. Hiver, on a compris, est très en colère, elle a les idées qui noircissent. Et surtout, elle a l'impression de ne pas être entourée par... le paysage qu'il faudrait parce que ça lui déplaît, parce qu'elle a besoin de regarder des peintures pour trouver la beauté, elle la trouve pas autour d'elle.
Non,
dans le monde qui l'entoure.
Non. C'est-à-dire qu'elle aime pas tout ce qu'on fait aujourd'hui, elle aime pas les lotissements, elle aime pas les zones industrielles, elle aime pas tout ça, elle aime pas le patron de sa mère qui l'appelle nuit et jour sur son portable, y compris le week-end, donc elle est rebelle.
Elle dit « on va en finir avec ces abîmeurs de joie ».
Oui, et puis elle dit « bon, les idées roses, ça sert à rien. Au moins, quand on a les idées qui noircissent, ça peut que s'éclaircir, quoi ». Alors après, évidemment, des choses se nouent entre ces quatre. Hein. Se nouent de l'amour, se nouent de la solidarité, se nouent... Bon, voilà, il y a des choses légères et des choses plus graves. Je crois que la préadolescence et l'adolescence, c'est quand même un moment à la fois de grâce et extrême dans la vie, quoi. Les enfants, les adolescents, ils sont à la fois pleins de fantaisie, pleins de joie, pleins de curiosité. Ils sont aussi cruels, hein. Donc la rivalité, je sais pas, la jalousie, le rejet, le racisme, tout ça. Voilà. Mais voilà, ce qui moi me touche particulièrement, c'est que. Les enfants, les préadolescents, les adolescents, en tout cas dans la jeunesse, il y a un grand pouvoir de reconstruction et une grande force de changement. une capacité, un désir de transformation, un désir de chemin. Et nous, les adultes, parfois, on perd ça, quoi. Voilà, il y a aucun cynisme. Il n'y a pas de cynisme. Et pour moi, ça, c'est extraordinaire. Ça me nourrit. Ça me redonne envie d'écrire. Ça me redonne envie de vivre. Voilà, je sais pas comment le dire autrement.
Il y a un jeune garçon qui s'appelle Mayo, qui a 14 ans, ouais. Et qu'on appelle Mayo parce que son prénom, son vrai prénom, est de toute façon beaucoup trop compliqué à prononcer. Et on réalise qu'en fait, il vient de Syrie et il vient d'arriver. Comment vous avez envie de ces questions, ces sujets qui nous traversent tous les jours, de les adresser à des enfants, à des ados, et aussi de les mettre à hauteur de leur regard et de justement leur exigence à eux?
Eh bien, justement, la présence de ce garçon, c'est réagir l'autre garçon qui s'appelle le petit et qui lui dit l'étranger, c'est lui, quoi. Il y a une espèce où les enfants aiment pas ce qui est différent. Ils aiment ce qui est pareil qu'eux, ce qui est normal, ce qui est voilà. Et en même temps, on est au bord de la mer, il y a une tempête qui se prépare, il y a une grande marée, et l'épreuve, hein, comme dans les contes, l'épreuve qu'ils vont vivre tous les quatre va les faire bouger tous les quatre et va transformer les relations entre eux.
Merci beaucoup Claudine Galéa.
Merci à vous.
Rebecca Chaillon et Ayassi Kusoko, vous savez à quoi ressemble votre désir profond aujourd'hui pour la scène?
Moi, j'ai très envie maintenant de... Alors, c'était un peu arrogant, mais j'ai très envie que d'autres s'en emparent, comme moi, j'ai eu la chance de m'en emparer, de le prendre comme un endroit d'émancipation. Et j'ai envie d'inviter plein de gens avec moi qui ne pensaient pas peut-être avoir leur place là.
Ayassi Soko?
Enfin, je sais pas. Moi, j'avoue que chacun puisse s'emparer de ce théâtre, de cet espace, et que chacun puisse aussi occuper cet espace comme spectateur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que justement, moi, mon travail, c'est vraiment auprès des plus jeunes, vraiment. Voilà, rien ne vous est interdit. Allez-y, emparez-vous des outils qui sont à portée de main, mais dont on n'a pas été. On n'a pas grandi avec. Donc voilà, allez-y,
fight.
On a commencé avec Stallone et Rocky III pour retrouver le désir, entrer sur scène comme entrer au combat, pour que la vie d'hier ne ressemble pas à celle de demain. Je dis merci à Lionel Quentin pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la technique ce soir, merci à Guillaume Ledu et Laurent Binder. Bientôt il sera 21h, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson.